Honorable assistance, Madame la Grande Chancelière de Côte d'Ivoire, je voudrais avant tout propos remercier le professeur Kérouédan pour l'opportunité qu'elle m'offre de parler un peu de la Côte d'Ivoire, pays qui pendant longtemps a fait la une de l'actualité parce que, ayant connu un essor économique qu'on a appelé miracle ivoirien, et puis depuis près d'une décennie, la Côte d'Ivoire est également la une de l'actualité, mais dans un autre registre, puisqu'elle connaît une crise sociopolitique qui dure depuis longtemps, et cela même s'est terminé par un conflit armé. Donc je voudrais partager avec vous cette expérience que nous avons vécue en Côte d'Ivoire et qui peut se répéter dans d'autres pays d'Afrique. Donc comme je le disais, l'expérience de la Côte d'Ivoire, que nous avons tous longtemps considérée comme un havre de paix, a connu des affres de la guerre et de l'instabilité politique. Et cette expérience est édifiante. Le thème de ce colloque, qui porte sur politique étrangère et diplomatie de la santé mondiale, revêt donc pour nous une grande importance ainsi qu'un intérêt tout particulier pour tous les acteurs du développement sanitaire des pays à faible revenu, et notamment lorsque ces pays ont été confrontés à la guerre et à une longue crise sociopolitique. À côté de la Côte d'Ivoire, nous pouvons citer certains pays qui ont connu ces mêmes cas. Nous avons près de nous le Libéria, la Sierra Leone, et puis un peu plus loin, le Congo Brazzaville, le Congo démocratique et bien d'autres pays. Mais il est important de noter que la Côte d'Ivoire se remet de cette grave crise post-électorale qui a été marquée par des tensions extrêmes et des affrontements armés. Des conséquences socio-économiques sont nombreuses, mais il faut surtout signaler le désastre engendré par cette crise sur le système de santé, et ces désastres ont accru des lacunes qui étaient latentes, notamment en matière d'investissement, et ont davantage compliqué la situation sanitaire qui était déjà préoccupante au plan de la fonctionnalité de nos infrastructures. Mesdames et messieurs, cette crise et ses conséquences socio-économiques placent donc, plus qu'il ne l'a jamais été, la Côte d'Ivoire dans une position de grande dépendance vis-à-vis des financements extérieurs pour la reconstruction du système de santé. Elle a entraîné, comme partout ailleurs, une désorganisation du système sanitaire, un dysfonctionnement dans l'offre de soins, un déplacement massif du personnel soignant et une démotivation de ce personnel. Ainsi aussi sommes-nous confrontés à un double défi. Le premier, celui de garantir la relance et la reconstruction rapide du système de santé. Mais ce défi est lui-même tributaire d'un autre défi et de loin le plus difficile, celui de la mobilisation des ressources, notamment les ressources extérieures issues de l'aide au développement en faveur du système de santé. C'est aussi l'occasion pour nous de parler un peu plus des perspectives d'apport, de financement et d'appui internationaux dans le cadre de la reconstruction post-conflit du système de santé. Bien sûr, nous ferons quelques observations avant de parler de ces perspectives. Il me plaît donc de faire quelques rappels pour situer un peu le système sanitaire de la Côte d'Ivoire pour qu'on comprenne mieux les difficultés que nous rencontrons. Mais avant ça, une rapide définition de la notion de post-conflit. Je sais que tout le monde connaît plus ou moins cette notion de post-conflit, mais on peut simplement dire que c'est la période de temps qui suit la fin du conflit armé. Et c'est une période de transition avant le retour à la normalité. Donc, c'est un contexte assez particulier. Le deuxième point de rappel, pour moi, qui est important, c'est l'organisation du système sanitaire. En effet, à quelques nuances près, l'organisation sanitaire de base, depuis l'initiative de Bamako, est semblable dans la plupart des pays de l'Afrique au sud du Sahara. C'est une organisation pyramidale, à base large, depuis les centres de santé, ensuite les hôpitaux généraux, les hôpitaux régionaux et les CHU. Donc voilà à quoi ressemble un peu le dispositif sanitaire de la Côte d'Ivoire et des autres pays de la sous-région. Nous avons donc une base large qui constitue le niveau primaire avec de nombreux centres de santé. En Côte d'Ivoire, on dénombre à peu près 1663 centres de santé. Ensuite, nous avons le niveau secondaire qui constitue la première référence et nous avons 18 centres hospitaliers régionaux et 58 hôpitaux généraux. Et nous avons le niveau tertiaire qui constitue le niveau de deuxième référence où nous avons 4 CHU et 9 instituts spécialisés en santé tels que l'Institut de cardiologie d'Abidjan, l'Institut national de santé publique, l'Institut national d'hygiène publique et le Centre national de transfusion sanguine. Donc, à côté du versant, qui est le versant prestataire de soins, nous avons le versant administratif. Et justement, à chaque niveau correspond une administration particulière. Et vous avez au niveau primaire et au niveau secondaire, nous avons les districts sanitaires, ensuite les régions sanitaires, et au niveau tertiaire, nous avons le cabinet et le ministère. Donc, cette gestion permet une certaine efficacité, mais parfois, elle peut être un peu lourde. Je continue toujours les rappels en revenant sur ce que j'ai dit tantôt, les conséquences notables des conflits sur le système sanitaire. Nous avons eu une désorganisation du système sanitaire. Notamment, j'ai parlé tout à l'heure des références et contre-références, mais pendant la guerre, il n'y a plus de système de référence et contre-référence. Donc, le secteur tertiaire peut devenir le secteur de premier contact. Alors que quand la situation est normale, le premier contact se fait au niveau primaire. Nous avons d'importants besoins en soins qui sont exprimés parce que tous les programmes de santé sont désorganisés, donc les maladies endémiques sont importantes et il y a des offres de soins qui se surajoutent avec les pathologies des guerres, etc. Mais en contrepartie de ces besoins importants, nous avons un faible accès des populations aux soins. Puisque des structures sanitaires sont fermées, le personnel est parti. Alors, dans ce contexte, on voit une situation épidémiologique qui devient importante et dominée par la recrudescence des maladies infectieuses et parasitaires endémiques. Nous avons surtout le paludisme. Nous avons également des poussées de maladies à potentiel épidémique, comme le choléra pour l'Afrique de l'Ouest, mais nous pouvons observer la fièvre Ebola, d'autres fièvres hémorragiques à l'Ouest. L'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. On observe une dégradation de tous les indicateurs de santé, une destruction, un pillage, les vols massifs, le vandalisme des structures sanitaires, surtout dans les zones de combat. Et ce que nous avons déploré pendant cette crise post-électorale en Côte d'Ivoire, c'est que Abidjan a été concerné. Et de grandes institutions comme l'Institut national de santé publique, qui avaient des pôles de recherche dans des pathologies de pointe comme le paludisme, la bilharziose, l'oncocercose pour nous, puisqu'on parle de pathologies tropicales négligées, mais toutes ces infrastructures ont été vandalisées et nous devons recommencer tous les systèmes. Nous avons même un entomologue qui avait fait des recherches dans le cas du chikungunya et ces mouches ont été, enfin les insectes, il avait réussi à conserver, ont été emportés. Bon, enfin, en tout cas, c'est une grande perte pour la recherche. À côté de cette destruction, nous avons, on l'a dit tout à l'heure, un exode massif du personnel de soins qui part des zones de combat vers les zones de non-combat, notamment ce que nous avons appelé, nous, la zone gouvernementale, c'est-à-dire à partir d'une certaine limite où le gouvernement contrôle l'aspect administratif, ben, le personnel reflue vers ces zones. Donc, on observe un désert sanitaire dans les régions du nord, de l'ouest, surtout où il y a beaucoup de combats, et au détriment de la région du sud. Ce qui fait que notre priorité, c'est la restauration rapide du système de santé dans la période post-conflit. Alors, quels sont les défis que nous pouvons observer? Nous avons englobé cela dans un thème que nous avons dit état des lieux, parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on constate, et en même temps, ça constitue un défi. Donc, le premier défi qui correspond à la première période, c'est la période d'urgence humanitaire. C'est-à-dire, peut-être même pendant le combat, mais très peu après le combat, Ce qu'on a observé, c'est qu'on a de nombreux appuis internationaux qui ont aidé la Côte d'Ivoire pour la reprise des prestations et les besoins de reconstruction, parce que les infrastructures ont été endommagées et quelques reconstructions ou réhabilitations sont faites, et cela permet d'offrir un minimum de soins aux populations. Ensuite, nous avons aussi, à côté de ces appuis qui arrivent, l'afflux des organisations et agences humanitaires. C'est une bonne chose. Nous avons MSF, qui vient en général le premier, Médecins du Monde, la Croix-Rouge, ECHO, et puis toutes les agences du système des Nations Unies. Donc nous avons bénéficié de l'apport de toutes ces organisations et de toutes ces agences humanitaires. Alors, qu'est-ce que les financements permettent de faire dans cette période d'urgence humanitaire? D'abord, de développer et de mettre en œuvre de grands programmes d'urgence et de reconstruction qu'on appelle les PUR. Ces projets sont surtout importants dans les zones de belligérance et de silence sanitaire, comme je l'ai dit tantôt. Dans cette première période également, tous ces systèmes permettent de renforcer à un moindre degré le système de santé dans les zones dites gouvernementales. Parce qu'effectivement, lorsqu'il y a un afflux de malades dans la zone gouvernementale, bien sûr, il y a une surcharge de travail, il y a une surexploitation de tous les équipements et infrastructures, et il y a une charge de travail accrue pour le personnel. Ce qui fait qu'on constate un épuisement du personnel, mais aussi une dégradation rapide de tout ce qui était équipement et infrastructure. Alors, je pense qu'on peut passer sur cette diapositive, mais je dirais simplement que dans cette phase d'urgence humanitaire, l'objectif final, c'est de préparer et organiser le retour et le redéploiement du personnel soignant après la phase de belligérance. Toujours dans le premier défi, c'est la seconde phase. Effectivement, c'est cette phase qui nous concerne actuellement. C'est la phase de reconstruction post-crise ou post-conflit. Et cette période est marquée par la mise en place du gouvernement. Effectivement, le gouvernement de Côte d'Ivoire, après la crise post-électorale, a été mis en place le 1er juin. Et la mission principale était le retour à la consolidation de la paix, la réconciliation, la restauration et la sécurité, et aussi la restauration de l'état de droit. Mais il faut dire que dans cette phase, en ce qui concerne le système de santé, il était question pour nous de proposer des actions à impact rapide à réaliser à court terme, c'est-à-dire durant le premier trimestre. Mais nous avons constaté, avec les expériences, parce qu'il y avait une période post-conflit, mais il y avait aussi une instabilité, surtout dans la région de l'Ouest, où il y avait quelques poches de résistance, où il y avait encore des combats. Il fallait absolument qu'on instaure la paix dans ces régions parce que ça constituait comme un système d'éternel recommencement. Vous équipez, quand vous tournez le dos, il y a des combats, les équipements sont à nouveau pillés, emportés, le personnel qui était revenu repart. Donc, pour cette phase de reconstruction post-conflit, il faut absolument que ces préalables de paix et de sécurité soient assurés. Alors, je voudrais donner quelques exemples d'actions prioritaires que nous avons définies en Côte d'Ivoire, notamment dans ce que nous avons appelé la matrice d'action prioritaire pour le système de santé. Nous devons faciliter l'accessibilité géographique et financière des populations aux prestations sanitaires. C'est dans ce cadre-là que le président de la République avait pris une mesure d'exemption des soins que nous avons appelée mesure de gratuité généralisée qui concernait tous les soins, les hospitalisations, les examens complémentaires de radiologie, etc. Et on avait constaté, après avoir fait un premier bilan de cette mesure d'exemption généralisée, qu'effectivement, il y avait un réel besoin de soins. Parce que les populations, il y a eu un afflux massif de populations vers toutes les structures sanitaires qui étaient accessibles. Et au lieu de 45 jours, comme ça avait été prévu, pour mettre en œuvre cette mesure exceptionnelle, on a été obligé de proroger cette mesure exceptionnelle sur 6 mois. Bon, il y a eu des grincements de dents parce que, comme je l'ai dit, ça entraînait une surcharge de travail aussi. Mais en tout cas, le résultat sur l'accessibilité aux soins, les prestations ont fait que ben, chacun a fait un effort pour maintenir cette mesure exceptionnelle. Et après les 6 mois, nous sommes passés à la mesure de gratuité ciblée, parce que c'était coûteux la mesure de gratuité généralisée. Donc la ciblée a concerné les enfants de 0 à 5 ans, et surtout les femmes enceintes, et des pathologies spécifiques, comme le paludisme, qui atteint à peu près, qui constitue à peu près 60% des consultations et hospitalisations. Et comme cette pathologie est soutenue par le Fonds mondial, nous avons continué la gratuité sur cette pathologie et aussi les urgences. La deuxième action prioritaire, c'était de renforcer la lutte contre les maladies à potentiel épidémique. Effectivement, la Côte d'Ivoire a connu pendant cette période des poussées épidémiques de choléra, même à Abidjan, dans la capitale, parce qu'il y avait des contrôles qui ne se faisaient plus au niveau des installations d'eau. Donc, il y avait un problème d'accessibilité à l'eau potable, un problème d'hygiène qui s'était dégradé. Et nous avons connu des épisodes de choléra. Et je voudrais relever que pendant cette période, que ce soit pendant la période de gratuité généralisée et pendant cette période de lutte contre les maladies à potentiel épidémique, nous avons été fortement soutenus par la communauté internationale et les agences humanitaires. Autre action prioritaire, c'est le renforcement des interventions des programmes prioritaires qui visent le groupe mère-enfant, notamment les immunisations des enfants de 0 à 5 ans, parce que c'est l'un des indicateurs qui avait le plus fléchi pendant la crise. Donc, il fallait relever le niveau d'immunisation des enfants. Donc, un renforcement du programme élargi de vaccination. Il fallait aussi renforcer l'approvisionnement en médicaments et autres intrants stratégiques. Quand nous disons intrants stratégiques, il y a tout ce qui concourt à l'amélioration des soins, mais là, nous avions une particularité, c'était la prise en charge des blessés de guerre. Et c'était des intrants qui n'étaient pas disponibles en Côte d'Ivoire avant cette grande période de crise post-électorale. Donc, il fallait également veiller à ce que des intrants de cette nature soient disponibles dans notre système. Améliorer la qualité des prestations dispensées, j'ai souligné les chirurgies de guerre, parce qu'effectivement, nos chirurgiens sont très bien formés, les traumatologues, mais c'est surtout pour traiter des maladies classiques, même si c'est des blessures à arme blanche ou à arme à feu, ça n'a pas la même importance qu'un traumatisé de guerre, parce que là, il y avait des obus, il y avait enfin, d'autres armes plus lourdes qui ont entraîné des dégâts, et les chirurgiens n'étaient pas habitués à pratiquer ce genre d'intervention. Donc, il a fallu des équipes du Nord pour renforcer les équipes du Sud pour leur permettre d'acquérir une compétence en matière de chirurgie de guerre. Enfin, la réhabilitation et le rééquipement des établissements sanitaires, je pense que c'était une priorité, mais là, c'est plus difficile parce que ça nécessite beaucoup plus de moyens. Donc, voilà un peu pour illustrer l'accessibilité financière. Nous avons les médicaments et intrants. Nous avons une équipe de la pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire qui est en train de conditionner des médicaments. Vous avez les étagères étaient vides. Il fallait donc rééquiper, réapprovisionner en médicaments. Donc, c'est ce que le personnel est en train de faire. Nous avons également fait beaucoup pour les maladies du rein parce que c'était un problème crucial. Et nous avons donc commandé des intrants pour la dialyse et, comme je l'ai dit tantôt, les prothèses pour les traumatisés de guerre. Bon, ici, c'est la réhabilitation. C'est une structure de santé de première référence qui a reçu des obus et nous avons vu un délabrement important. Il fallait réhabiliter ainsi que tous les appareils de radiologie qui devaient être remis en état parce que des pièces ont été abîmées. Et enfin, il fallait des groupes électrogènes parce que souvent, le circuit électrique était abîmé dans les hôpitaux. On ne pouvait pas opérer et il fallait rapidement mettre en état ces salles d'intervention et il fallait commander des groupes électrogènes. Et là, on illustre un blessé de guerre qui a la première intervention qui consiste à rétablir le membre, mais après, il faudrait passer à la pose d'une prothèse parce que le fémur était complètement délabré. Et je pense que c'est plusieurs exemples comme ça que nous aurons pu illustrer cette présentation. Et puis enfin, j'ai parlé du groupe mère-enfant. Il y a eu beaucoup de programmes. J'ai parlé du programme élargi de vaccination. Mais ce qu'on a fait qui était intéressant dans ce programme élargi de vaccination, c'est qu'on a mis en place un réseau et un système de vaccination de proximité. Parce que les mamans étaient réticentes à emmener les enfants à l'hôpital. Il n'y avait plus de moyens parce que la paupérisation était importante et on ne pouvait pas attendre que les mamans consultent dans les centres de santé pour faire les vaccinations. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on faisait des équipes mobiles qui allaient dans les quartiers et qui vaccinaient même à des heures tardives, mais la satisfaction, c'est que les mamans étaient là jusqu'à des heures tardives, 19h, 20h, les équipes étaient en place et vaccinaient les enfants. Et une conséquence quand même importante de ce programme, c'est la gratuité de la césarienne et de l'accouchement. Parce que en Côte d'Ivoire, comme dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, la mortalité maternelle est un souci, c'est une préoccupation importante. Et pour donner un chiffre, en Côte d'Ivoire, nous sommes encore à 543 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, alors que nous avons des infrastructures. Je vous ai montré un peu la pyramide sanitaire. Alors, ce qui freinait beaucoup, ce qui aggravait la mortalité maternelle, c'était le retard à pratiquer soit des accouchements assistés, soit la césarienne, parce que les parents qui arrivaient n'avaient pas les moyens de payer les frais demandés par les médecins. Et à force d'attendre, soit on perdait la maman, soit on perdait le bébé, à force d'attendre, soit on perdait et le bébé et la maman après avoir fait une césarienne inutile. Donc, lorsque ce dossier a été présenté au gouvernement, le président de la République a signé le décret instituant la gratuité de l'accouchement et de la césarienne. Je pense que c'est un acquis important dans le cadre de la santé de la mère et de l'enfant. Et ça a un coût. Mais je pense que ce coût peut être supporté par la Côte d'Ivoire et c'est ce que nous pratiquons actuellement. Ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a quelques éléments qui manquent, mais d'une façon générale, il y a une gratuité de la césarienne et de l'accouchement. Alors, le deuxième défi, c'est le financement de la santé. Je l'ai dit dans mon introduction. En fait, c'est une problématique qui reste entière. Avant les crises, vous savez que tous les systèmes de santé africains ne sont pas à un bon niveau de satisfaction. On a des problèmes d'équipement, des problèmes de réhabilitation, des problèmes de personnel, mais tout cela est majoré par des problèmes de financement, surtout les financements pour les investissements. C'est pourquoi nous avons mis l'accent sur les besoins prioritaires qui devaient être satisfaits, notamment les infrastructures, la fourniture des médicaments, les vaccins, les contraceptifs, les antirétroviraux. Mais nous avons aussi pensé que ce financement pouvait permettre d'améliorer le fonctionnement en matière de gouvernance et de renforcement des capacités. Et le constat, c'est que les besoins sont énormes, mais la part du budget de l'État accordé à la santé demeure en deçà des niveaux souhaités notamment le niveau recommandé par Abuja, qui était de 15%. Et en Côte d'Ivoire, la part du budget se situe en 4 et 8%. Donc, ça reste faible. Alors, où trouvons-nous ces financements? Il s'agit surtout de financements extérieurs pour compléter l'action du gouvernement. Et pour la Côte d'Ivoire, nous avons espéré un financement après l'initiative PPTE, programme de pays pauvres très endettés. Je pense que nous avons réussi finalement à avoir ce PPTE, mais la valeur estimée est de 1300 millions de dollars US. Et pour la santé, la part qui est réservée à la santé, c'est de 130 millions de dollars US, soit 42 milliards de francs CFA au bout de 4 ans. Donc c'est un montant qui permettait quand même d'aller de l'avant. Toujours dans les financements extérieurs, il y a tous ces programmes d'urgence dont j'ai parlé tout à l'heure. Bien sûr, il y a le PUR, hein, le programme d'urgence de réhabilitation, mais on a aussi le PARSI de l'Union européenne. C'est le projet d'appui au renforcement du système de santé. Parce qu'à côté des infrastructures, à côté des médicaments, il faut renforcer aussi le système de santé lui-même. Donc, nous avons le PARSI. Il y a le PATS, le programme d'action transitoire pour la santé, et puis tous les programmes multisectoriels d'urgence. Et autre source extérieure que je vais citer rapidement, nous avons les financements espérés pour la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire. En décembre 2012, il y a eu une conférence budgétaire à Paris où des bailleurs ont souhaité financer le plan national de développement de façon générale en Côte d'Ivoire et en particulier le plan national de développement sanitaire. Nous avons aussi tous les dons des agences humanitaires et des institutions multilatérales et bilatérales comme l'Union européenne, les États-Unis avec le PEPFAR, la Chine, le Japon, la Corée. En tout cas, on a eu plusieurs aides. Nous avons des fonds spécifiques comme le Fonds mondial, l'UNITED. Nous avons aussi tout ce que les systèmes des Nations Unies apportent comme appui technique, appui logistique, notamment l'ONUCI, qui est en Côte d'Ivoire, le PNUD, le FNUAP, l'OMS, etc. Alors, qu'en est-il du financement intérieur? Les financements intérieurs sont assez maigres, mais c'est quand même notable, parce que ce sont des efforts qui sont faits dans cette période de guerre. Nous avons le budget qui a été majoré, même si ça n'atteint pas encore les 15%, mais le budget de la santé a été majoré. Il y a un fonds spécial que le président de la République a mis en place pour soutenir la période post-conflit, qui était le programme présidentiel d'urgence. Et pour la santé, nous avons bénéficié en 2011 de 11 milliards de francs CFA et en 2012 de 12 milliards de francs CFA. Et je pense que pour 2013, ce montant a été majoré. Donc c'est un acquis important. Nous avons le trésor public qui fait des emprunts obligataires. Et nous avons aussi en Côte d'Ivoire des efforts sur les ressources additionnelles. Et par exemple, pour le VIH-SIDA, pour compenser l'achat des ARV, nous avons pu mobiliser sur la taxe tabac 2 milliards de francs CFA pour l'année 2011. Et ça devait permettre d'améliorer la prise en charge des patients vivant avec le VIH. Et puis, un élément qu'il ne faut pas négliger, c'est la mobilisation des différentes communautés vivant sur le territoire national. Parce qu'il y a des Ivoiriens, mais nous avons des non-Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, tels que les Libanais, toutes les ambassades qui ont aidé à mobiliser des ressources. Donc je pense que ça doit être souligné. Et puis enfin, ça c'est un espoir, c'est la mise en place de la couverture maladie universelle, c'est pourquoi je l'ai mis en vert. Ce n'est pas encore fait, mais c'est l'objectif majeur du financement intérieur. Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'observation. C'est bien beau tout ce que j'ai dit, ça a été fait, il y a des financements extérieurs, des financements intérieurs, mais la réalité, qu'en est-il de la disponibilité de ces ressources au moment où on en a véritablement besoin? Et c'est là où j'ai quelques observations à faire, et je suis d'autant plus à l'aise pour parler de ces observations, parce que toute la journée d'hier, je pense que les intervenants ont mis le doigt sur ces problèmes, et ce sont des problèmes réels. Et comme aujourd'hui on parle d'exemples sur le terrain, je pense que c'est bien qu'on puisse illustrer un peu tout ce qui a été dit hier par des exemples concrets sur le terrain. Alors, d'abord, les financements internationaux sont pré-ciblés. Si vous avez le PEPFA, bien sûr qu'il a le PEPFA élargit sa gamme, mais en matière de santé, c'est le VIH. Vous avez d'autres pathologies, mais le premier médecin, c'est le VIH. Vous avez le Fonds mondial. Le Fonds mondial aussi arrive. Il y a trois pathologies qui sont ciblées, le paludisme, la tuberculose, le VIH. Nous avons des pathologies tropicales négligées. En Côte d'Ivoire, pendant la période post-crise, nous avons observé une recrudescence de bilharziose, ce qu'on appelle schistosomiase, chez les écoliers. Il y a plusieurs zones où on a dépisté pour plus de 300 enfants des signes de bilharziose. Il fallait les traiter. Et merci, nous avons eu l'appui de Royaume-Uni qui nous ont donné des médicaments pour traiter ces enfants. Sinon, les médicaments ne sont pas pris en charge de façon courante par les partenaires qui nous appuient. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Nous avons aussi certains volets qui sont couverts par les financements. Ce sont les ressources humaines abordées avec des séminaires, etc. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Et puis, l'approvisionnement en médicaments essentiels. Hier, on a parlé de la liste des médicaments essentiels de l'OMS. Donc, souvent, les partenaires vont dans le sens de l'achat des médicaments essentiels parce que c'est ce qui est recommandé. Mais à côté de ça, vous avez des pathologies qui frappent des personnes qui sont pauvres, qui n'ont pas d'argent. Nous avons les diabétiques, nous avons les hypertendus qui ont besoin de médicaments, mais ces médicaments ne sont pas subventionnés. Donc, ils vous disent, mais pourquoi vous subventionnez le VIH? Pourquoi vous, des médicaments qui coûtent cher, vous les subventionnez? Les médicaments pour l'hypertension artérielle, vous ne payez pas? Pour le diabète, vous ne payez pas? Voilà des problèmes que pose le pré-ciblage des ressources. Également, les volets réhabilitation, rééquipement, construction, même s'il y a des programmes spéciaux, ils ne sont pas suffisamment couverts parce que les partenaires ont leur objectif. Quand je dis qu'ils ne sont pas suffisamment couverts, parce qu'il y a des partenaires qui arrivent, ils disent que moi je peux intervenir dans ce secteur, mais je ne peux pas réhabiliter. Je peux participer à l'amélioration des prestations de soins, à telle activité, mais je ne peux pas faire de réhabilitation. Donc il faut se tourner vers des partenaires qui sont prêts à réhabiliter. Si la structure n'est pas réhabilitée, on ne peut pas faire de prestations. Donc, c'est un plaidoyer permanent qu'il faut faire pour pouvoir obtenir un financement pour mettre en état les infrastructures. D'autre part, les ressources de l'État. J'ai dit que les budgets étaient augmentés, il y a eu le PPU, mais ces ressources sont difficilement mobilisables et ne sont pas toujours disponibles. C'est-à-dire, au moment où vous en avez besoin, vous n'avez pas les ressources. Donc, ça retarde un peu la mise en œuvre de tous nos programmes. Je voudrais un peu faire un clin d'œil au thème du colloque politique étrangère et diplomatie de la santé mondiale. Je ne suis pas très versé dans ces terminologies. J'ai bien écouté hier, j'ai appris certaines choses, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais simplement donner quelques informations là-dessus. Mais auparavant, je voudrais profiter de cette occasion solennelle qui nous est accordée pour remercier en tout cas tous les pays et tous les partenaires qui ont apporté une contribution à la Côte d'Ivoire pendant cette période de post-crise. En tout cas, peut-être c'est pas ce qu'on attendait, mais en tout cas ça nous a été utile et je pense que cela mérite d'être souligné. On a parlé de la diplomatie de la santé, mais moi je pense effectivement que les actions humanitaires sont de bons canaux de promotion diplomatique pour les pays pourvoyeurs de fonds, car en fonction de la puissance de leur réseau d'intervention et d'implantation sur le territoire, ils améliorent leur visibilité, parce qu'ils sont reconnus par tous les citoyens. Le logo est reconnu partout. Les agences sont reconnues partout. MSF est reconnu partout. Si la France peut utiliser MSF pour se faire mieux connaître dans le monde, je pense que ce serait une très belle occasion. Parce que tout le monde reconnaît MSF, est venu s'ajouter Médecins du Monde. Vous avez les Américains avec le PEPFAR, ils sont visibles. Et lorsque ces canaux sont bien utilisés, je pense que c'est un facteur de visibilité. Alors, je voudrais parler de conditionnalité. Qu'est-ce que j'entends par conditionnalité? Qu'est-ce que j'entends par garantie additionnelle? Les conditionnalités, ce sont toutes les procédures que nous avons avec les partenaires pour décaisser les fonds. Alors, une des conditionnalités qui est peut-être bien, parce que c'est une question de confiance ou d'assurance, c'est les bénéficiaires principaux. Alors, vous avez le partenaire qui vous octroie des fonds pour la Côte d'Ivoire. Mais qui va gérer ces fonds? Ce n'est pas le ministère de la Santé. On va désigner un bénéficiaire principal qui est en général un membre du système des Nations Unies. Ça peut être le PNUD, ça peut être l'UNICEF. Par exemple, pour les réhabilitations, c'est l'UNICEF. Pour le VIH-SIDA, pendant longtemps, ça a été le PNUD. Ainsi de suite. Donc, les partenaires envoient les fonds. L'Union européenne également a une agence qui va s'occuper de la gestion des fonds. Donc, vous avez ces conditionnalités et à remplir avant de pouvoir bénéficier des fonds. Et il y a bien d'autres éléments. Mais pendant la période post-électorale, la période post-conflit, pour la Côte d'Ivoire, nous avons eu ce qu'on appelle les garanties additionnelles. C'est-à-dire, du fait de la désorganisation du système de santé, on a été frappé par d'autres contraintes. Ça paraît paradoxal. Un pays sort de crise, se bat pour restaurer son système de santé et on lui pose d'autres contraintes. Alors, je vais vous donner l'exemple d'une contrainte qui nous a un peu surprise. C'est la contrainte de retrouver tous les moustiquaires imprégnés qui avaient disparu pendant la crise. Qu'en est-il? Avant la crise, la Côte d'Ivoire avait reçu du Fonds mondial des moustiquaires pour la distribution gratuite. Et ces moustiquaires étaient dans des conteneurs. Et ces conteneurs ont été prépositionnés dans les districts sanitaires et les régions sanitaires jusqu'à l'ouest, au nord, etc. Et la crise est arrivée. Plus personne n'avait accès aux structures de santé. Plus personne n'avait accès aux lieux de stockage. Donc, les conteneurs ont été éventrés, les moustiquaires pillés, volés, disparus. Le Fonds mondial arrive. Avant de décaisser les fonds pour soutenir l'activité du paludisme en Côte d'Ivoire ou autre, il faut restituer les moustiquaires imprégnés. C'était une des conditions de garantie additionnelle. Vous voyez que on a fait des plaidoyers. Moi, en tout cas, en tant que ministre de la Santé à cette époque, j'ai plutôt demandé à ces structures d'avoir pitié de la Côte d'Ivoire. Je leur ai dit, ayez pitié parce qu'on sort d'une crise. Peut-être même que vous ne m'aurez pas trouvée vivante. Je suis devant vous. Excusez-nous, on ne peut pas vous restituer les moustiquaires qui ont été volés. Mais je crois qu'on a eu des oreilles attentives et par la suite, cette condition, ces garanties additionnelles ont été progressivement levées et la Côte d'Ivoire a pu bénéficier des fonds pour la lutte contre le paludisme, pour les programmes du VIH-SIDA et de la tuberculose. Enfin, je voudrais parler de la problématique de la présence et du retrait des agences humanitaires. Là, les constats que j'ai faits ont été illustrés par un livre, dans un livre que j'ai lu, qui a été écrit par Jean-Hervé Jézéquel, Médecins sans frontières et sortis de guerre. Bien sûr qu'il a, il y a des justificatifs techniques proposés dans la littérature post-conflit qui mettent en exergue des enjeux pour permettre à ces agences d'être là, mais en même temps, il y a quelques difficultés que nous pouvons signaler avec la présence de ces agences humanitaires. Et si la santé, en général, est appréhendée dans la représentation des bailleurs de fonds comme un bien public neutre, on l'a dit hier, qui participe d'un effort de pacification entre les communautés en conflit, si on reconnaît beaucoup d'avantages, j'ai remercié ces agences humanitaires pour cela, à la présence de ces agences, mais il y a quand même des difficultés. Et on a quand même parfois des situations, je peux dire, contradictoires. Alors, quels sont ces exemples? Il y a une méconnaissance du système de santé. En général, MSF arrive dans une région, elle a, c'est une agence, donc, elle a ses habitudes, mais à côté, il y a un système de santé qui est complètement ignoré. Voilà. Donc, on met les pratiques en place, parce que c'est ça, c'est l'urgence, c'est ce qu'on veut faire de mieux pour soigner le maximum de malades. Mais le système à côté, on ne le regarde pas. Alors, un des problèmes que nous vivons avec MSF, quand il est prêt à partir, c'est le problème de recouvrement des coûts. Parce qu'avant la gratuité généralisée, et même quand elle n'est pas pratiquée par endroit, les patients refusent de payer parce que MSF faisait déjà tout gratuitement. Donc, quand vous demandez à un malade de payer, il vous dit, j'ai eu l'habitude de ne pas payer, donc je ne peux plus payer des coûts. Donc, vous êtes confronté à un problème de recouvrement de coûts. Un autre problème, c'est le recrutement du personnel. Effectivement, j'ai parlé de fuite massive du personnel. Donc, le personnel qualifié n'est plus présent. Donc, MSF, pour ses prestations, va recruter des agents parmi la population, peu qualifiés. Mais on va leur inculquer quelques notions. Ils deviennent... ils acquièrent quelques compétences et on les utilise. Mais quand MSF va se retirer, ce personnel qui a eu l'habitude de travailler à l'hôpital se dit, j'ai acquis des compétences, je ne peux plus retourner dans la population, au ministère de me recruter. Recrutez-nous comme agents de santé. Alors que nous avons un système de formation des agents de santé, des concours pour entrer à la fonction publique, nous nous trouvons devant un dilemme de personnel qui ont été utiles, parce qu'il ne faut pas aussi se voiler la face pendant que le personnel qualifié avait fui, ils ont travaillé, et du jour au lendemain, on se retrouve avec du personnel sur le bras et on ne sait pas quoi faire. Je pense que c'est aussi un élément important. Nous avons les rémunérations, et ces personnels non qualifiés sont payés deux fois, trois fois plus cher que le médecin titulaire. Alors, même si vous avez envie de l'embaucher, vous ne pouvez pas le payer à la mesure de ce qui était fait antérieurement. Donc, je pense que là, on a eu quelques discussions avec ces agences, et je crois que s'il y a des représentants d'agences dans la salle, je pense que c'est important de prendre en compte ce que j'ai dit par rapport à ces pratiques qui sont utiles au moment de la crise humanitaire, mais après, ça pose des problèmes aux gestionnaires des systèmes. Et je disais qu'à l'extrême, il y a un fonctionnement parallèle dans la même structure, parce qu'il y a des agents qui sont recrutés par MSF qui ont quelques primes, et puis à côté, vous avez le personnel classique qui reçoit son salaire de fonctionnaire, et souvent, ça pose des problèmes parce qu'ils souhaitent avoir des primes et ils ne peuvent pas avoir les mêmes primes. Alors, quelles sont nos perspectives ? Quelles sont nos perspectives ? Je pense que nous avons parlé des défis et avec le concours de tous, hein, nous pouvons relever ces défis. Et ce que nous proposons pour restaurer et reconstruire le système de santé dans la période post-crise, c'est que les financements prennent en compte tous les piliers fondamentaux du système de santé, notamment les ressources humaines et matérielles, et non seulement les prestations. Et que ces financements soient ciblés sur les besoins réels du pays. Et ces besoins réels du pays sont bien consignés dans les plans nationaux de développement sanitaire, et cela aurait un meilleur impact sur le système de santé. Nous souhaitons, et nous l'avons mis en pratique, la rédaction et la signature de protocoles d'accord et de rémunération avec les agences humanitaires dans la période post-conflit, parce que là, on voit bien ce qui se fait sur le terrain et, en tout cas, c'est d'un commun accord que les choses se déroulent. Nous, par rapport à la gouvernance, je pense que c'est important. Quand on sort des crises, les bailleurs ne nous font pas beaucoup confiance parce que tout est désorganisé. Donc, il faut mettre en place un bon système et une bonne gouvernance pour attirer les investisseurs et avoir la confiance des partenaires. Et pour la Côte d'Ivoire, nous avons la planification des dépenses à moyen terme. C'est le CDMT, donc c'est un cadre qui prévoit les dépenses sur, je l'ai dit tantôt, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et ça donne une meilleure visibilité à ce qu'on souhaite faire. Nous avons la gestion basée sur les résultats, donc tout est planifié, on sait d'où nous partons et où nous voulons en venir. Nous avons aussi mis l'accent sur la traçabilité, parce que c'est ce que les partenaires demandent. Quand ils vous donnent de l'argent, où va cet argent ? Il faut qu'on puisse suivre. Donc, nous avons mis l'accent sur la traçabilité. Et enfin, pour motiver le personnel lui-même, nous avons la gestion basée sur la performance. Je pense que c'est un système qui est bien, qui permet d'évaluer le personnel sur le terrain, tout le personnel administratif, technique, etc. Et par rapport à la Côte d'Ivoire, tout à l'heure j'ai parlé donc de la matrice d'action, justement, pour illustrer cela, pour ne pas parler dans le vide, au niveau du gouvernement, il y a ce qu'on a appelé la matrice d'action gouvernementale, la MAG, pour tous les ministères, et dans cette matrice d'action gouvernementale qui est séquencée sur 6 mois, nous devons chacun dans un secteur faire la matrice d'action prioritaire. Et on a les activités, les indicateurs, la budgétisation et le contrôle. Je pense que c'est un élément qui nous a aidés à avoir de bons résultats. Et enfin, ce n'est pas le moindre, c'est le réarmement moral du personnel et la lutte contre les mauvaises pratiques. Parce qu'effectivement, le personnel étant démotivé, quand on veut les redéployer, il y a toujours cette crainte de vivre encore une situation de conflit, une situation de départ précipité, et il faut les encourager à revenir, il faut vraiment peut-être même avoir des entretiens psychologiques avec ce personnel pour leur donner confiance, mais à côté de ça, il faut lutter contre les mauvaises pratiques parce que devant l'afflux du travail, il y a les mauvaises pratiques comme le racket, etc., qui s'aggravent. Donc, mesdames et messieurs, je voulais conclure mon intervention en disant que dans les pays en développement et en période post-conflit, tout paraît prioritaire pour relever les systèmes sanitaires, tant les dysfonctionnements et insuffisances latentes sont exacerbés. L'apport des financements internationaux à la construction post-conflit du système de santé est une question d'actualité. Le niveau des investissements nécessaires est tel que les attentes des gouvernements sont fortes quant à la disponibilité des financements internationaux attendus. Néanmoins, leur destination ne correspond pas toujours aux besoins réels exprimés. Un effort doit être fait dans ce sens à travers la mise en place de mécanismes de gestion consensuels ciblés sur les priorités telles que définies par les plans d'action. Les autres piliers pour le renforcement du système sanitaire, précisément les ressources humaines, doivent être également prises en compte dans un contexte politique apaisé afin de pouvoir relever les défis qui s'imposent à nous. Mesdames et messieurs, je pense avoir terminé avec mon exposé. Je vous remercie pour votre aimable attention.